Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence aujourd'hui, émission numéro 98 et nous sommes le mercredi 18 mai 2016. Christophe Rollin au micro, Gérald est ici, Isa n'est pas là pour aujourd'hui, peut-être le verrons-nous la semaine prochaine. En revanche, nous avons bien une invitée, Sophie Mitschka, conférencière, musicologue, qui vient parler d'elle. Vous allez voir, très intéressant, qui vient parler de son site également. Et puis, surtout, de la conférence qu'elle donne demain à 18h30 à l'auditorium à l'occasion du beau programme Mahler qui est donné, Gustav Mahler, qui est donné sur deux dates, comme toujours, à l'auditorium, le jeudi à 20h et le samedi à 18h, jeudi 19 mai, samedi 21 mai. Il s'agira d'entendre la première symphonie de Gustav Mahler, et puis, surtout, les Kinder Totenlieder. Et donc, Sophie Mitschka, demain, dans sa conférence à 18h30 à l'auditorium, présentera cette œuvre. Un peu, moi je dirais de mon avis un peu spécial. Enfin bref, nous allons sûrement tomber amoureux de cette œuvre en l'écoutant tout à l'heure, en écoutant les mots que tiendra Sophie à ce sujet. Pour l'instant, eh bien, oh là mon Dieu, déjà 14h05, quel retard nous prenons. Écoutons bien justement un peu de Gustav Mahler avec la première symphonie, écoutons le deuxième mouvement et puis lançons l'émission. Gérald aura beaucoup de questions à poser, moi aussi. Vous nous écoutez sur le 102.2 de la bande FM à Lyon, c'est comme ça, ou bien sur internet radiocanu.org. Voilà, je me permets d'interrompre. Je l'ai indiqué à Sophie, je ne suis pas musicien. Je crois que c'était les contrebasses, hein, c'était pas les violoncelles, il me semble.
Mais tu es mélomane.
Exactement. Voilà, c'est comme ça qu'on
parle. Bonjour à tous.
Bonjour Gérald, bonjour Sophie, bonjour Isa qui est arrivée.
Salut tout le monde.
Bonjour.
Gérald, une première bévue que j'ai commise en début.
Petite bévue, puisque pour une fois, nous avons deux invités dans le cadre de l'émission. La deuxième partie sera l'occasion d'inviter Francis du Bal des Ardents, puisque ce week-end est un week-end très exceptionnel pour cette excellente librairie lyonnaise, puisqu'il y a un festival. Festival avec des invités vraiment de marque et des super maisons d'édition. On en reparlera avec Francis qui viendra la deuxième partie avec un bal, au Bal des Ardents en plus le soir, et toute une journée de rencontres, de signatures, de présentations de tous les genres. On en parlera plus précisément en deuxième partie d'émission.
Les samedis 21 et dimanche 22 mai, puisque Sophie devra partir tout à l'heure. Alors commençons donc tout de suite. Sophie, pourriez-vous, eh bien, donc, comme d'habitude, brosser un peu votre portrait, parler de ce site, Sophie Mitschka, musicologue, il y a des tirets au milieu, et puis Mitschka s'appelle d'une manière particulière, c'est à la polonaise, donc je vous en prie, commencez donc peut-être par cela, épeler ce beau patronyme, et puis ensuite parler davantage de vous, de votre formation de violoniste, et puis Vous êtes à présent conférencière musicologue.
Merci Christophe pour votre accueil. En effet, Mitchka, M-I-C-Z-K-A, donc sophie-mitchka-musicologue.com, tout un programme pour un nouveau site qui a été mis en ligne au printemps. Et ben, suite à quoi ? Suite à un long parcours de quelques années déjà. En effet, j'ai commencé par le violon, puis des études de musicologie. Pendant mes études de musicologie, j'ai découvert ce que c'était qu'un concert. Et après un concert, il y a aussi, ou en amont plutôt de concert, puis une organisation. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais faire. J'aimerais faire de la programmation. Donc après mes études de musicologie du management culturel, et puis je me suis retrouvée à Lyon. En venant de la Sorbonne à Paris, je me suis retrouvée à Lyon, à l'Opéra de Lyon, attachée à la direction musicale, un très beau nom, et puis surtout une fonction fantastique, fabuleuse. Pendant 12 années, j'étais attachée exactement aux directeurs musicaux qui se sont succédés. Kent Nagano pendant 7 ans, Louis Langrée pendant 2 ans, et Ivan Fischer pendant 3 ans. Et qu'est-ce que je faisais ? Eh bien, il y a beaucoup de choses quand on travaille.
C'est quelles années, c'est à peu près ? Années 90, je crois, c'est ça ?
Oui, voilà, c'est ça. J'ai commencé en 91 et c'était des années importantes.
Donc, vous êtes lyonnaise ?
Oui, on va dire ça. Oh, merci
Gérald,
beaucoup si vous m'adoptez.
On respecte tout à fait le cas des charges des émissions, à savoir, nous ne recevons que des personnalités lyonnaises. Denis Lavant, François Bégodeau, je ne sais qui encore, tout à fait oublié. Non, on reçoit tout type de personnes, mais... On aime bien, Gérald et moi, essayer de faire un peu une sorte de galerie de figures, de personnes qu'on peut croiser à Lyon. Donc vous, on peut vous voir régulièrement. Oui, on peut vous trouver à Lyon.
Ah oui, tout à fait.
Et vous y restez.
Et j'y reste dans des associations culturelles ou bien sûr des salles de concert.
L'opéra, vous l'avez donc quitté en 2004-2005, quelque chose comme
2005,
ça peut-être ?
2005, oui, 2005.
Et alors après, que
c'est ? Eh bien, il faut dire qu'à l'Opéra de Lyon, en plus de travailler pour les chefs d'orchestre, j'ai déjà présenté des spectacles. Et pendant ces années, j'ai été demandée par des associations culturelles, donc extérieures à l'Opéra de Lyon, « Ah mais Sophie, puisque tu es musicologue, présente-nous les spectacles de l'Opéra. » Et là, je peux dire que ça a été un coup de foudre peut-être de contact avec ce public qui finalement on ne voit que de loin quand on travaille dans une grande institution. Et le fait de pouvoir apporter la culture à un public non préparé, à un public non connaisseur, et qu'il découvre la musique, pour moi ça a été quelque chose de merveilleux que j'ai voulu développer. Et maintenant, eh bien, avec 3, 4, des fois 5, parfois 6 conférences par semaine, oui, ça occupe bien un emploi du temps, avec soit donc des préparations au concert maintenant à l'auditorium Maurice Ravel, puisque je travaille à l'auditorium Maurice Ravel. On est une petite équipe de 5 conférenciers à tourner pour présenter les concerts ou les conférences du vendredi midi avec des sujets les plus variés.
Et qu'est-ce qui vous a amené à quitter l'Opéra ?
Eh bien, justement, cette activité de conférencière, j'avais un plein temps à l'Opéra de Lyon et c'était plus compatible avec cette activité de conférencière, donc j'ai préféré faire le pas. Et puis aussi, n'oublions pas que j'étais quand même attachée à la direction musicale et il n'y avait plus de directeur musical avec le départ d'Alain Durel et la nouvelle direction, il n'y avait plus qu'un chef d'orchestre principal invité. Donc finalement, je pouvais faire autre chose.
Et est-ce que vous avez un souvenir particulier de la période où vous avez été à... L'opéra, est-ce qu'il y a un concert qui vous a marqué ?
Oh oui, l'un des premiers, Les Gauerlieder de Schoenberg, une pièce absolument fabuleuse.
Avec une mise en scène ?
Non, c'était vraiment un concert. Hein. C'est une sorte de grand oratorio, très très vaste oratorio. Il y avait l'orchestre de l'Opéra de Lyon, l'orchestre de Montpellier, il y avait deux chœurs. C'était absolument fabuleux. Et là, c'était quelque chose de très très fort. C'était, il y a très longtemps.
Un opéra qui vous aurait marqué, parce que ça, c'est donc un concert. Mais si on parle de cet opéra, vous avez connu, vous êtes arrivé pour l'opéra Jean Nouvel, c'est ça, non ?
Oui, je suis arrivée après. Je suis arrivée juste avant l'inauguration de l'opéra Jean Nouvel. Et on avait donné Rodrigue et Chimène de Debussy, un opéra qui avait été, oublié, non terminé d'ailleurs par de Debussy. Et c'était les premières notes qui ont été données dans cet opéra, ce nouvel opéra, et c'était quelque chose de très, très, très fort.
Et est-ce que ça n'était pas Roberto Alagna, non, qui chantait
C'était pas Roberto Alagna.
Non, je comprends. Parce qu'il est venu chanter à Lyon,
oui, très souvent.
Donc, oui. Un opéra, alors, qui vous aurait peut-être, ce Rodrigue et Chimène,
celui-ci, c'est peut-être, et c'est dommage, c'est pas l'Opéra de Lyon, mais c'était pendant hors les murs, comme on le disait, c'était Tour d'hôte de Puccini. C'était absolument fabuleux qu'on avait donné à l'auditorium, qu'on avait complètement aménagé pour la cause, et c'était au point de vue mise en scène, c'était très très fort.
Et les trois sœurs de Peter et de Wösch ?
Oui, aussi un grand moment. c'est
98,
vrai qu'il y a beaucoup.
19, je crois.
Beaucoup de souvenirs.
Très bien. Gérald, une question.
Ça me fait penser à une question. Combien d'opéras en moyenne, depuis toutes ces années, par an, à l'Opéra de Lyon sont produits et donnés, en fait ? Une dizaine ?
Oh, à peine.
À peine, hein.
Il faut vite, dire qu'un 5, opéra, 6. Pour être monté, il faut quand même bien un mois et demi, sinon deux mois, les mises en scène, oui.
C'est 6-7 par an, on va dire.
Oui, voilà.
Depuis
c'est,
le début.
C'est plutôt ça. Plutôt ça. Selon, bien sûr, si on a eu aussi la prétention, disons, le vouloir de faire plusieurs opéras en alternance, comme certaines maisons d'Europe, mais finalement, ça s'est moins fait. Ouais. Mais maintenant, je suis depuis 5 ou 6 ans à l'Auditorium Maurice Ravel, donc c'est plus le répertoire lyrique, c'est le répertoire symphonique. Et là, et puis aussi un petit peu de musique de chambre avec les grands interprètes, et c'est quelque chose qui est aussi très fort, puisque il y a. Je dirais peut-être plus de musique pure que de musique et théâtre. On a moins à travailler avec le metteur en scène, mais plus avec les solistes. Et moi, c'est une musique qui me, je dirais, qui est peut-être plus accessible pour un public qui est vraiment découvre la musique, parce qu'il n'y a pas le théâtre qui est là en plus.
Et en termes de concerts, c'est à peu près pareil qu'au niveau des opéras, vous en avez fait à peu près le même nombre, une dizaine ou...
Non, c'est pas du tout le même rythme. À l'auditorium, il y a au moins un concert par semaine, parce que c'est très court à monter. Le soliste arrive deux jours avant le concert avec une répétition, avec piano et chef d'orchestre pour mettre un petit peu en ordre les tempi. Ensuite, une répétition avec l'orchestre, une générale, et puis ensuite le concert. Donc ça va très très vite, et c'est un programme qui défile au fur et à mesure de l'année, est très très riche. Donc là, c'est un programme Mahler que nous allons avoir demain et samedi, donc c'est une grande chance. Et avec les Kinder Totenlieder, c'est une pièce quand même d'une grande densité. Donc pour baryton orchestre symphonique, une pièce qui dure entre 20-25 minutes selon l'interprétation. Donc c'est une succession de 5 poèmes qui ont été écrits par un Friedrich Rückert, qui a été écrit par un poète qui a perdu deux de ses 5 enfants de façon foudroyante, et qui
d'où
écrit
le titre,
d'où
pour
le
les
noms
germaniques,
bien sûr.
Les enfants
alors
morts,
pour les noms
chants
pour Kinder Totenlieder, c'est les chants pour les enfants morts, absolument. Et Mahler, alors qu'il n'avait pas encore perdu l'un de ses deux enfants, et bien loin de pouvoir imaginer qu'il allait perdre l'un de ses deux enfants, a mis 5 de ses poèmes en musique de façon absolument très dense, très magistrale. C'est quelque chose de, comme je l'expliquais tout à l'heure à Christophe, puisque je suis en train de finir, pas tout à fait fini, mais je suis en train de finir de les préparer, quelque chose qui me broie un peu le ventre, parce que c'est une musique qui est extrêmement expressive, extrêmement qui parle beaucoup, ne serait-ce d'elle-même, même sans les mots, avant que les mots n'arrivent.
Est-ce que nous allons pouvoir réussir à nous en rendre compte, puisque un enregistrement est prêt. Là, nous allons écouter le premier de ce cycle de poèmes, ce cycle de chansons. Nun will die Sonne so hell aufgehen. Je suis en train de me dire quel bol nous avons, hein, Isa.
Quel accent.
Isa Gérald, ouais, certes, quel bol nous avons, non pas d'entendre mon bel accent, mais d'entendre. On est presque demain 18h30, on est en train d'entendre le début de la conférence, j'ai l'impression, c'est formidable. Ensuite, une fois qu'on aura écouté un premier extrait, on pourra écouter la suite de la conférence, ça va être génial. Ce qu'on va faire, justement, donc, après avoir écouté cet extrait, peut-être pourriez-vous en dire davantage de mots sur justement cette œuvre principalement, et puis on reviendra également sur ce site que vous avez. Je crois qu'il y a une page intéressante, on en parle, c'est ça, il y a différentes choses, il y a des rendez-vous, donc on évoquera tout
et
ça.
Et en quoi consiste le travail de musicologue, et comment se déroulent ces conférences?
On a encore maintes questions musicales à poser. Mince. 14h30 va arriver tout à l'heure. Est-ce qu'on aura épuisé la matière? On reverra Sophie. On reverra Sophie Mitchka
pour une spéciale.
Oui.
Je dis quelques mots avant qu'on commence à écouter cette musique.
Si vous souhaitez justement nous faire une écoute présentée.
Alors, donc vous connaissez le titre, mais j'aimerais rien dire sur le poème, parce qu'on n'a pas non plus trop le temps. J'aimerais plutôt que l'on soit touché par cette musique qui parle, qui va vraiment de petite note en petite note, comme si vous pouviez imaginer un clavier pour piano, on touchait même pas des touches blanches aux touches blanches, mais qu'on allait de la touche blanche à la touche noire, c'est-à-dire de petits degrés, on appelle ça en musique des demi-tons, majeurs ou mineurs, et qui fait que finalement c'est comme si c'était des soupirs. Alors je parle pas bien sûr d'écriture musicale avec du solfège, mais qu'est-ce que c'est qu'un soupir? C'est une expiration, c'est une émotion qui est mise en musique. Et là, le fait que l'on monte progressivement de demi-ton en demi-ton, de petite marche en petite marche, eh bien, on va dans l'émotion. Et quand le chanteur va reprendre ensuite la suite de l'introduction musicale, lui va aller un peu plus haut, il va sauter un peu plus haut pour montrer cette douleur. Les instruments au bois, continués par le corps qui sont mélodiques alors qu'ils ne sont pas pas toujours avec mes malheurs. Les cordes, elles, sont en tapis sonore. Les harpes vont venir un petit peu pour nous bercer. Et puis au milieu, est-ce qu'on aura le temps d'être au milieu? On a le Glockenspiel qui est là. C'est un petit carillon qui est là pour nous montrer les rayons du soleil.
Pourriez-vous indiquer de quelle version il s'agit, puisque nous avons la même, hein, je crois?
Oui, c'est Thomas Thompson avec le Wiener Philharmoniker.
Et c'est un enregistrement de concert en plus.
1988 de mémoire.
Nous interrompons cette longue plainte de...
Jusqu'au Glockenspiel.
C'est Thomas Thompson qui chante. J'écoutais en vidéo sur YouTube, on peut aller récupérer des choses, et j'entendais Dietrich Fischer-Dieskau chanter également. Mathias Goerne, qui sera le baryton de demain soir et de samedi à l'Auditorium, puisque nous parlons de ce concert Mahler, la première symphonie ainsi que les Kinder Totenlieder, donnée jeudi 19 mai 20h, samedi 21 mai 18h. Mathias Goerne, c'est également une pointure, hein, je crois, Sophie, notre invitée musicologue.
Oui, c'est un baryton allemand qui est un grand spécialiste de Lieder, de Schubert, qui l'a donné d'ailleurs il a donné un concert Wagner à la Philharmonie il y a 2 semaines. À Abu Dhabi, c'était la semaine dernière, c'était des Lieder de Schubert. Et puis ensuite, il va à Stockholm après être venu chez nous, et toujours avec Schubert. Il est en train de faire un grand cycle de 11 disques chez Harmonia Mundi avec que des Lieder de Schubert. On a beaucoup de chance d'avoir un grand spécialiste parmi nous. Et le chef d'orchestre, Lionel Bringuier, eh bien lui, c'est un tout jeune, puisqu'il est né, il me semble, en 86. Donc, il suffit de faire le calcul. Il est rentré au Conservatoire de Paris après multiples prix qu'il a remportés successivement. Et puis, il est directeur musical de la Tonhalle de Zurich depuis 1 an. C'est assez incroyable. Cocorico, on peut être quand même fier d'un Français aussi bien représenté en Europe.
Sophie, vous êtes également spécialiste, hein, vous parliez à l'instant de ce baryton Mathias Goerne, spécialiste de Mahler, également de Schubert, c'est ça, davantage même peut-être?
Schubert,
surtout.
Oui.
Vous, spécialiste généraliste, conférencière donc, et par exemple, pour revenir à cette conférence que vous animerez demain à 18h30, samedi, je suppose que c'est à 17h peut-être, non, même avant, 16h30. Eh bien, pour revenir à cette conférence, vous, la semaine dernière, vous en faisiez une autre? qui portait sur un sujet bien plus général, mais c'était encore l'auditorium.
Oui, c'était assez amusant.
Cette conférence-ci, puis l'autre ensuite.
C'était assez amusant en effet, parce qu'on m'a demandé de présenter une conférence qui s'intitulait « Les grands classiques d'hier sont-ils les tubes d'aujourd'hui ?» Alors, c'était comme un jeu. Je suis partie de la musique du Moyen Âge jusqu'au Boléro de Ravel, parce que c'est quand même la musique plus d'actualité,
libre
puisque
de droit,
libre de droit depuis début de mois de mai. Et j'ai essayé de montrer un petit peu quels étaient les tubes d'hier, les grands classiques d'hier, qui devraient être encore nos grands classiques d'aujourd'hui et quelles étaient leurs histoires. Donc on s'est amusé jusque bien sûr l'Adagio d'Albinoni, où j'ai montré des couvertures de disques de Jean-Claude Malgoire, encore de Karajan, alors que évidemment on sait très bien que cette œuvre n'est pas de Albinoni, puisque c'était un musicologue italien qui s'est amusé en 1945 de reprendre simplement un accompagnement d'Albinoni et d'en faire finalement ce qu'on appelle aujourd'hui un tube.
Alors ça, c'était la conférence de la semaine dernière et demain, mais c'est intéressant, enfin du moins, et alors vous n'auriez même peut-être pas dû l'évoquer, c'est presque terminé, c'est ça, donc la conférence...
Pas tout à fait.
Elle est terminée, c'est donc pendant une heure, c'est quand même long pendant une heure.
Oui, c'est assez drôle parce que je vais présenter une œuvre qui dure 20-25 minutes pendant une heure, mais et c'est le but de l'auditorium, et je trouve qu'à Lyon, nous avons une chance extraordinaire d'avoir pour chaque concert symphonique, une introduction normalement d'une demi-heure qui présente de façon, je dirais, assez constructive avec des extraits musicaux le programme entier. Mais on a des petits rendez-vous pendant l'année, comme ça sera le cas ce jeudi et ce samedi, qui on s'arrête sur une seule œuvre du programme et cela pendant une heure. Et là, c'est un grand luxe, je dirais, pour pouvoir vraiment approfondir, connaître l'histoire du compositeur, les conditions de composition et puis bien sûr, des écoutes accompagnées, des écoutes guidées qui permettent au public après de découvrir, d'appréhender le concert de façon, je dirais, peut-être un petit peu plus approfondie.
Et alors concrètement, vous avez donc, vous me disiez, je crois, un diaporama, c'est ça, qui
oui.
Vous utiliserez des vidéos aussi, peut-être.
Oui, oui, oui. Donc c'est assez intéressant parce que bien on a la chance aussi à l'auditorium de Lyon d'être quand même relativement, je dirais même très gâté avec une bonne installation Hi-Fi et puis aussi avec un vidéoprojecteur et ça permet. Ben moi, ce que j'essaie toujours de faire, c'est de montrer une partition et évidemment la plus grande majorité, si ce n'était pas toutes les personnes qui viennent aux conférences, ne connaissent rien à la musique, mais je les prends un peu par la main, je leur montre certaines choses pour qu'ils puissent de façon, je dirais, géométrique suivre une partition et comprendre un petit peu les secrets d'une écriture musicale.
Et comment est-ce que ça marche concrètement ? Donc c'est à l'espace l'Atrium, vous me disiez, et je suppose que le public n'est peut-être pas tout de suite là, samedi sera 16h30, demain 18h30, ils arrivent au fur et à mesure, vous tentez de...
Oui, pourtant sur leur billet c'est bien indiqué à quelle heure est la conférence, mais à chaque fois les pauvres ils se trompent parce qu'ils ne regardent pas bien leur billet, ils ont oublié que la conférence ne durait une heure au lieu d'une demi-heure comme d'habitude, donc ils arrivent un petit peu ahuris, pas toujours très contents parce qu'il n'y avait plus trop de place pour s'asseoir, et donc là je sais bien qu'au bout d'une demi-heure, il faut que je refasse un tout petit rappel pour que tout le monde puisse raccrocher.
Quelle est la fréquence de ces conférences ?
C'est... À chaque concert, il y a une conférence.
À 19h ?
Une conférence d'une demi-heure à chaque concert. Et dans l'année, il y a 5-6 rendez-vous d'une heure.
Et alors, je crois que vous l'indiquez tout à l'heure, vous êtes plusieurs conférenciers à tourner, donc ce n'est pas vous qui avez assuré ces 5 conférences d'une heure.
Non, j'en ai fait 2 cette année, j'en suis très heureuse.
Donc presque la moitié. La précédente, c'était sur... Vous en souvenez-vous, il y a quelques temps déjà. Et on approche de la fin de saison de l'auditorium. Là, il me semble qu'il reste encore le concert de la semaine d'après, Tandun, qui sera à la baguette pour également une de ses œuvres qu'il dirigera. Le mandarin merveilleux de Béla Bartók. Et puis, je crois qu'il reste encore Alain Altinoglu, il me semble, début juin, pour des airs de Verdi et de Strauss. Et j'oublie Murray Peraya. J'étais encore chez des gens dernièrement, je voyais un CD qui était posé sur leur petite juste à côté de leur chaîne et Murray Peraya était dessus pour des concertos de Mozart. Je ne sais même pas si c'est bien ça qu'il dirigera aussi
Il me semble que c'est ça et c'est vrai que c'est encore une chance.
C'est avec un orchestre invité
à Lyon d'avoir de tels solistes qui puissent prendre la baguette. C'est quelque chose d'assez, je veux dire, pas exceptionnel, mais on a quand même une très belle programmation entre l'Opéra de Lyon et l'Orchestre National de Lyon. En tout cas, je parle de la musique classique puisque c'est mon domaine. On est très très gâtés. Et puis il y avait bien sûr les concerts de musique de chambre qui se passent aussi à l'Auditorium de Lyon.
Il viendra avec l'Academy of Saint Martin in the Fields. Il me semble.
Et pas des moindres.
C'est Neville Marriner.
Oui.
Je crois. Qui était Donc c'est bien Neville bien Murray Pareja qui sera la baguette pour, eh bien non, il n'y aura pas de Mozart. Benjamin Britten, variation sur un thème de Frank Bridge. Franz Schubert, la symphonie numéro 8, la symphonie, la fameuse inachevée, et puis de Beethoven, le concerto pour piano numéro 4. Ah, il le dirigera de piano,
de son pupitre.
Oh là là, c'est intéressant.
Du piano.
Et c'est voilà, je les ai sous les yeux, ce sont bien les trois derniers concerts. Tandun, le 26, mais le 4 juin, ce sera Murray Pareja pour une seule date, seulement le samedi 4 juin, et le samedi 11 juin également pour une seule date. Alain Elkinoglu dirigera l'orchestre pour les déserts de Verdi et de Strauss. Nous, ce que nous pouvons encore faire, c'est dire peut-être deux, trois mots, parce que Francis, du Bal des Ardents, a déjà pris place. Il est prêt pour la deuxième partie d'émission pour évoquer cette fête, je ne sais pas comment nommer ça, festival de ces samedi 21 et dimanche 22 mai. Encore peut-être deux, trois mots. La première symphonie, vous la maîtrisez moins, Sophie, c'est ça? Enfin, vous ne la commenterez pas demain.
Non, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant pour moi, parce que quand on va à un concert, ça serait bien de faire la globalité, mais là, c'est la direction prise par l'auditorium Maurice Ravel, qui préfère qu'on axe sur une œuvre. Et encore une fois, je ne sais plus si j'ai employé le mot luxe, mais c'est vrai que je trouve que c'est un certain luxe de pouvoir s'arrêter, de pouvoir prendre le temps, de pouvoir, je dirais même, analyser de façon... Avec moi, c'est toujours ludique, on s'endort jamais, c'est toujours assez vivant. Mais c'est très important, finalement, de pouvoir présenter une œuvre dans son ensemble, parce que sinon, si c'est pas juste avant un concert, eh bien, est-ce que après on pourrait le découvrir de façon ultra concrète? Parce que ce qui est important aussi dans un concert, plutôt que dans un salon chez soi, c'est que après, on est dans une salle de concert, une vaste salle de concert. C'est comme un spectacle, même si c'est un concert symphonique. On a l'orchestre devant soi. Et ce qu'on a entendu, ce qu'on a imaginé, eh bien, on le voit. Et moi, je dis toujours, quand je présente des conférences, je dis, vous verrez à votre droite, vous verrez à votre gauche, regardez derrière, etc., etc. Finalement, c'est quelque chose qui est très visuel, un orchestre. Et parfois, quand on entend à la radio, ou quand on entend un enregistrement, ou même dans sa voiture, si on a un équipement, on n'arrive pas toujours, on parlait tout à l'heure de Glockenspiel, cette espèce de petit carillon qui finalement fait un bruit incroyable. Pourtant, c'est un tout petit instrument avec des petites lames de métal que l'on frappe. Eh bien, si on sait ou si on l'entend et si on va le chercher dans l'orchestre et qu'on le découvre, c'est encore une autre découverte.
Je vous l'avais dit, Isa et Gérald, je vous l'avais dit, on est luxe à la conférence.
Aujourd'hui, notre luxe est d'avoir deux invités, mais je pense qu'il faudrait réaliser une émission d'une heure spécifique avec...
Sophie reviendra parce que l'heure a tourné, il est déjà 14h30 et j'avais promis qu'on parlerait un peu plus de ce blog. De toute façon, enfin, il est vraiment très très jeune, il y a déjà plusieurs pages, mais c'est peut-être pas encore tout à fait complet. Si, enfin du moins les choses se développeront davantage dans les temps à venir. Vous-même, votre activité de conférencière va un peu se réduire avec la arrivé de l'été, c'est ça?
Mais je vais travailler en Suisse. Bon. Présenter aussi pour des festivaliers et d'autres mots. Et c'est vrai que ce site internet, c'est un site internet qui est ouvert pour le public, pour pouvoir me suivre mes conférences, qui donne des idées, par exemple, au comité d'entreprise, pour inviter aussi une conférencière entre midi et deux, pour présenter de la musique, pour reposer un petit peu les employés, ou pour les professionnels, les responsables de salles, qui eux aussi ont besoin de savoir où j'ai travaillé, quels sont tous mes programmes. Donc je n'ai pas tous mes programmes bien sûr, mais j'ai une présentation de programme. Donc c'est un outil professionnel utile pour pouvoir présenter mon travail.
Vous donnez dans la visioconférence?
Pas encore.
Isa, une question.
Est-ce que vous allez ailleurs qu'en France ou en Suisse? Est-ce que vous allez, je ne sais pas, en Allemagne ou en d'autres endroits?
Eh bien, c'est la langue en Allemagne. Oh là là, je ne suis pas germanophone, mais en anglais, je commence à donner quelques conférences en anglais et c'est vrai que ça pourrait se développer. Donc c'est un travail en amont, mais une fois que le public passe sur mes petites fautes d'anglais, pourquoi pas?
Il n'y aura pas d'explication de texte demain des poèmes de Friedrich Rückert? Non, les Totenlieder? Non, il n'y aura pas dans le détail. Écoutez Sophie, à part, je crois, Réplé, S-O-P-H-I-E, tiret, M-I-C-Z-K-A, tiret, M-U-S-I-C-O-L-O-G-U-E.com, à part Réplé cela, c'est-à-dire le site internet.
Le relire sur le blog.
À part peut-être faire une petite remarque sur l'ironie, c'est assez intéressant que vous disiez que dans l'auditorium, c'est agréable de pouvoir faire un temps d'arrêt, d'avoir du luxe et tout ça. L'auditorium ne se situe-t-il pas à la Part-Dieu, qui est un centre d'affaires assez, assez important, avec, je crois, il me semble qu'il est question de développer davantage la gare, de faire une résidence, des immeubles qui vont encore se développer pas très loin, Sky, je ne sais quoi. Il y a une autre tour qui va pousser à une centaine de mètres.
C'est une oasis, alors. L'auditorium est une oasis.
J'y étais.
Repos et de beauté.
J'y étais hier soir. Est-ce vraiment le terme qu'on pourrait utiliser? C'était plutôt une sorte de désert. Enfin, désert, non, n'importe quoi. Gésert, je voulais dire. Michel Camilo, pianiste de Latin Jazz hier soir. Waouh! Ça balançait, c'était vraiment des geysers incroyables. Il a massacré le piano. Je ne sais pas en quel état celui-ci a terminé. C'était assez terrible. L'auditorium, il y a beaucoup de bonnes choses à faire. Donc, continuez à vous y rendre. On essaie de faire une transition avec Francis en écoutant un autre de ces Kinder Toten Leaders. Sophie, que nous recommandez-vous pour passer à...
Eh bien, peut-être le deuxième, si vous pouvez l'attraper.
Allez, une écoute guidée, et puis on vous laisse partir.
Voilà, je lis la traduction. Hein, je sais bien pourquoi vos yeux lançaient ces sombres flammes. Là, on est dans un temps complètement suspendu. Quand je dis suspendu, c'est comme s'il n'y avait pas de tempo, comme si le chef d'orchestre avait finalement laissé la baguette. Et là, il y a deux montées d'introduction orchestrale avec un accord assez pesant, assez déchirant d'ailleurs, un petit peu trop appuyé, on ne sait pas du tout où on va. Le baryton rentre, accompagné par la flûte. Les harpes vont aussi ponctuer avec un accord. Et on a vraiment l'impression d'imaginer le regard de l'enfant disparu qui monte vers son père.
Merci Sophie.
Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
On écoute. Au revoir.
À bientôt.
Spectaculaire 98e émission, deuxième. Comment ça, deuxième? Deuxième partie.
Deuxième partie avec Francis. Alors Francis, moi je le connais un petit peu, mais je sais qu'il s'appelle Francis, mais c'est Francis comment en fait?
C'est Francis Chaput des Herville.
Ah oui, ça en jette quand même. Mm-hmm. Bon, alors on dira Francis.
Libraire, c'est ça? Comment vous qualifiez? Chef d'entreprise?
Je crois que c'est un terme qui vous
plairait. L'un n'empêche pas l'autre.
Nos auditeurs connaissent bien, c'est l'ancienne librairie Musardine qui est devenue le Bal des Ardents il y a maintenant, je crois, 15 ans
13.
13 ans, je suis pas loin. J'ai connu la Musardine au début, très très bonne librairie. Bon, ça fait partie des meilleures librairies de Lyon, évidemment. On ne citera pas les autres, d'ailleurs. Elle est très bien placée, en plein centre-ville, rue Neuve. Et on y trouve de tout. Et d'ailleurs, la fête qui est prévue ce week-end, parce que c'est une vraie fête de libraire.
C'est à cette occasion que vous venez, Francis, voilà. nous parler.
Des super
21-22 mai. Est-ce que je lis ce qui est indiqué dessus? Le Bal des Ardents est heureux de vous inviter à sa fête qui se déroulera les 21 et 22 mai, c'est-à-dire samedi et dimanche 2016. Rencontres, conférences, ateliers, projections, dédicaces, pot de l'amitié et bal le samedi soir. Venez partager avec nous ces deux jours entièrement dédiés aux livres et à la lecture. Qu'on se le dise. Tout le programme est à retrouver sur le site www.lebaldesardants, tout accroché. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un S à la fin de Ardent, il y a même un T également, puisque ça vient d'une racine latine Ardentum, qui signifie participe présent, je crois, brûlant, brûlé, je ne sais, .com. Oui, on n'a pas qualifié le nom. Pourquoi passer de Musardine au Bal des Ardents? Donc, c'est changement
de maison d'édition assez branchée érotisme et écrit sulfureux, on peut le dire.
Et le Bal des Ardents, c'est pas un thème, c'est pas.
Il y a une continuité, mais il y a aussi plein, c'est très varié. En fait, c'est, on va dire. Bon, on va laisser parler Francis.
Voilà, exactement, au lieu de discuter. Isam, vous êtes drapé.
En fait, pour répondre pour le nom, le bal des ardents, c'est effectivement un événement dramatique, mais en fait, moi, je ne fais pas référence à cet événement, donc on ne va pas le raconter maintenant. Mais
quelle date, 1300, c'est ça, un truc comme ça,
non, oui, pardon. 1300, alors c'est un peu, soit 1360, voilà, ça varie un peu, 1340, 1360. C'est Charles VI, en fait. L'époque de Azincourt, etc. Mmh. Moi, je fais référence d'une part au surréaliste et d'autre part à un texte éponyme, Le bal des ardents, de Pierre Bettencourt, qui est un plasticien et poète.
On va dire atypique, dans la lignée de...
Oui, enfin, en même temps, tous les musées nationaux...
Singulier, à la fois moderne.
Voilà.
Il est chez Cordier aussi.
Il est au Terreau.
Oui.
Mais peut-être sa production littéraire est moins connue, alors qu'elle est immense. Ouais. Et c'est surtout l'éditeur Lettres Vives qui
même
les titres. Voilà. Alors qu'il y a encore beaucoup de choses qui n'ont jamais été éditées, sinon par lui, parce qu'il était aussi imprimeur.
Voilà, et des magnifiques petits livres qu'on découpe soi-même sur un magnifique papier.
Voilà. Ce sont les bouquins à José Corti, c'est ça, non?
Qu'on découpe. Aussi, mais...
Oui.
La date, tu l'as donnée, toi, Gérald? Le passage entre Musardine et le bal des ardents, alors?
2003.
Voilà. 2003. Oui. Bon, et donc, alors, cet anniversaire en 2016, c'est pas forcément les...
C'est pas un anniversaire.
Non, pas exactement.
C'est l'occasion de rencontrer des grands.
C'est une fête, en fait, les débuts, quand même, et pour tout un tas de raisons, ont pas été toujours très simples pour le bal des ardents. Et aujourd'hui, on a trouvé une clientèle, on a trouvé l'équilibre, on a quand même 4 employés. C'est l'équipe qui a lancé l'idée. Je me suis dit, mais oui, en effet, on n'a jamais fêté le bal des ardents. On fait des rencontres, on fait beaucoup de rencontres tout au long de l'année. Presque une par semaine, mais on n'a jamais fêté, on s'est jamais fêté, voilà, nous-mêmes, on va dire. Et donc, c'est juste une fête dans laquelle on a donc organisé des rencontres, des dédicaces, comme vous l'avez très bien dit, mais aussi qui nous ressemblent, en fait. C'était nous.
Je n'ai fait que lire. Je n'ai fait que lire ce qui était indiqué sur le flyer qu'on trouve partout. C'est une bonne chose.
Elle a plutôt quel type d'âge?
Elle a tous les âges.
Tous les âges.
Ah, ouais.
Il y a aussi un rayon jeunesse, on en reparlera, parce qu'il y a des très bons éditeurs jeunesse qui viennent d'ailleurs ce week-end.
Oui, non, c'est tous les âges. Moi, la volonté dès le départ était de faire une librairie générale. Simplement, je ne suis pas grand public. Donc après, c'est sûr qu'au départ, c'était aussi un choix. Et puis ensuite, de toute façon, on ne me demande pas les auteurs des grandes ventes. Si on me les demandait 10 fois par jour, bien entendu que je ferais comme tout le monde. Je les vendrais, mais en fait, on ne me les demande pas. Donc, je ne sais pas, Musso ou Lévy, tout ça, moi, j'en vends jamais parce qu'on ne m'en demande jamais.
Donc, ils sont pas
mais sinon, je m'adresse à tout le monde. Il y a autre chose, bien entendu. Il y a une énorme production, de toute façon, chez les petits éditeurs qui sont mal représentés quand ils ne le sont pas du tout, qui sont mal chroniqués quand ils ne le sont pas du tout, alors qu'il y a une vraie vie, une énorme dynamique dans l'édition en France. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Et donc, sans compter les fanzines, pardon.
Et on vous demande plutôt quel type d'auteur, enfin, plutôt des auteurs qui sont plutôt intimistes, des gens qui sont...
Intimistes, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire des gens qui sont pas vraiment très très connus, enfin qui sont connus dans un petit cercle, quoi.
Enfin nous, on les propose, on nous les demande. Je pense que le lecteur, en tout cas, je pense que le lecteur, il sait un peu, il a une idée déjà de ce qu'il cherche. Alors bien entendu que nous, mais c'est plus facile de dire qu'est-ce que vous de mettre un troisième choix, par exemple, si la personne a aimé tel ou tel titre. On en met un troisième qui, là, peut être effectivement d'un auteur inconnu, enfin, en tout cas, du client, du lecteur. Mais, de manière générale, les gens savent qu'il y a beaucoup de choix. Le truc du bal des ardents, c'est d'avoir 25 000 références et de ne pas tenir compte, on va dire, du succès d'un livre pour le garder ou pas. Si on pense que le bouquin il est bon, eh bien on le garde, même si on ne l'a pas vendu depuis un an ou deux ans, ou alors s'il est important de l'avoir. Voilà, c'est ce qui fait aussi une grosse différence dans la gestion du stock de la librairie.
On peut dire que c'est une éthique ? C'est une éthique, il y a une éthique quand même.
Oui, après, peut-être le mot est un peu fort, mais de toute façon, il y a des choix, tout simplement. Il y a des choix qui, je pense, Gérald, tu parles d'éthique, parce que ce sont des choix qui, en termes économiques, sont plus difficiles que de pratiquer que la nouveauté, bien entendu.
J'imagine que vous avez une certaine classe sociale de gens qui viennent acheter vos livres.
Enfin, de toute façon, le lecteur, hélas, mais il y a, sociologiquement parlant, des classes sociales qui lisent beaucoup plus que d'autres, c'est une évidence. Après, Moi, je suis ouvert évidemment à tout le monde, mais je fais pas trop de. Enfin, je pourrais pas trop, sinon, vous répondre. En tout cas, la clientèle la plus difficile à faire venir, c'est les étudiants. J'ai mis beaucoup de temps. En tout cas, en ce qui me concerne. Et mais maintenant,
aussi
voilà.
Les milieux populaires, peut-être.
Comment?
Peut-être aussi, voilà, les milieux, voilà, populaires qui sont peut-être attirés par des livres peut-être plus grand public, parce que c'est les livres qu'on leur vend et.
J'ai toujours un peu de mal avec ces analyses-là. Je pense que si on parle de milieu populaire, je pense qu'il y aura moins de lecteurs. Après, que les lecteurs dans le milieu populaire soient plus attirés par la grande diffusion, je ne crois pas. Je pense que tout le monde est victime des tapages médiatiques qui peuvent arriver sur un titre qui est à ce moment-là considéré comme n'importe quel produit, ce qui ne l'est pas pour moi. Et à ce moment-là, ça touche toutes les couches sociales, je pense.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des auteurs que vous voulez pas, enfin que vous avez décidé volontairement de ne pas.
Des Renaud Camus, relayés. Renaud Camus, ouais. Vous en avez
ouais, oui. Vous pas relayer, quoi.
Par exemple, un Renaud Camus, mais qui est pas. Qui s'appelle Trix, qui est un des premiers textes érotiques gays, avec une préface, excusez-moi, de Roland Barthes.
Livre, voilà, je l'ai. Trouve au Bal des Jardins, quand même.
Et j'ai des Camus. Après, là, vous posez une question qui ne relève pas uniquement d'abord de mon avis ou de ce que je peux penser d'un auteur, mais il est évident qu'on fait un travail sur la liberté d'expression. Mmh. Et donc, je ne vends pas que des auteurs avec lesquels je suis d'accord sur tel ou tel sujet. Mmh. Donc, peut-être je préférerais vous dire que si un auteur, effectivement, était d'un côté très mal représenté, que de l'autre, même si je ne suis pas d'accord, je pense que ce qui est dans ce qu'il dit est intéressant, je serais fier sinon de le défendre, en tout cas de le proposer à ma clientèle. Après, peut-être l'exemple type pour vous répondre aussi tout à fait franchement, mais de toute façon, je n'aime pas cette clientèle. Bon, quand il s'agit de détourner d'histoire ou d'en faire du chromo et de l'image d'Épinal, donc je pense à un livre qui a cartonné, qui s'appelle Hexagone, je crois. Bon, il y a des parties pris, c'est des livres, attention, hein, c'est des palettes et des palettes. Moi, j'en ai vendu, je crois, 2 sur commande, mais vous ne le trouverez pas dans mes rayons. Oui, mais non pas, je veux dire, j'ai rien contre après.
Par contre, on trouvera plein de super Tachon pas cher, parce que Tachon, c'est quand même une édition qui a démocratisé le livre d'art.
Exactement.
Qui était hors de prix. Et ça, c'est un choix c'est politique.
Ah, oui, et l'éditorial est très soigné.
Et pour le coup, c'est éthique.
Hein. Oui, l'éditorial est très soigné. Ouais.
Et c'est toujours le problème, hein. On est en train d'en parler, pour la radio c'est compliqué, mais moi je dirais volontiers auditeur, il faut y aller. C'est en plus entrée libre, enfin disons, je ne pense même pas à la fête du 21 mai, mais moi ce que je crois c'est que je vais y aller en sortant de l'émission, je vais y aller à 3h30, je vais y passer parce que c'est quand même une librairie, je crois que dans certains endroits il y a une marche et puis le parquet craque, non? Enfin, du moins,
c'est vrai, moi j'ai quand même...
C'est un autre espace que celui, on le nomme, c'est un autre espace que Passage ou que Deux Citres, ou que... Enfin voilà, c'est quand même autre chose quoi.
C'est un espace artistique.
Il y a un cachet indéniable, enfin, qui était là en partie quand j'y suis.
Vous n'avez peut-être pas de mérite, mais
la voûte des livres.
Une voûte des livres.
Et puis il y a eu Pierre Bettencourt qui a exposé de grands totems magnifiques, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que pendant des années, ça a été une très très bonne galerie. On a eu des dessins de Pajac, d'ailleurs, qui revient ce week-end. Il y a eu une expo des totems de Bettencourt qui initie la galerie. On a eu des très belles expos.
Henri Huguetto.
Voilà, plein de gens, de super dessinateurs. GB, je crois.
Il faut y aller. Et en plus, et moi, ça me fascine, ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites sur avoir un fond. Enfin, je ne sais pas s'il y a peut-être un aspect malheureux. Le terme pourrait-il être un peu critique, éventuellement être négatif, péjoratif. Un aspect peut-être musée. Et il y a un fond. Par exemple, je sais que je souhaite mettre la main sur 4 livres de Blanchot. L'attente, l'oubli, celui qui ne m'attendait pas, je crois également, et puis je sais plus encore, je mange les autres titres, ça fait depuis 10 ou 15 ans que je souhaite acheter ces bouquins.
Ils sont au Bal des
J'aimerais les prendre ensemble, ils sont au Bal des Ardents. C'est peut-être la raison pour laquelle je ne les prends pas encore, parce que je sais qu'à la FNAC ils n'y sont pas, Deux Citres non plus, et Passage non plus.
Il faut y aller.
Bal des Ardents, ils y sont. Mais j'ai trop de trucs à lire, moi, c'est pour ça que je suis toujours fasciné, Isa ou Francis ou d'autres, moi je ne suis jamais entré dans une librairie en ne sachant pas ce que je voulais, parce que j'ai tellement de bouquins à lire chez moi, quand je vais dans une librairie, c'est parce que je vais en chercher un de plus, et je sais que celui-ci, oui, oui, vraiment, il me le faut instamment, c'est nécessaire.
Les livres qu'on regarde en pensant les ouvrir.
Oui, non, mais après, il y a plein de.
Mais moi, sinon, pendant des années avant de les ouvrir.
Des gens entrent et rusardent, c'est ça
enfin, bah, j'aimerais dire, que je suis. Avant d'être libraire, je suis un lecteur et un rat de librairie. Et bien entendu que j'avais des idées quand j'entrais, mais j'ai beaucoup musardé dans les librairies. D'abord voir un petit peu ce qui vient de sortir. De toute façon, j'avais pas les moyens de m'acheter des grands formats, de regarder un petit peu. Mais on fait aussi des rencontres juste en regardant, en ouvrant un livre. On connaît pas l'auteur, on connaît pas l'éditeur, on connaît rien. On lit une page et paf, vous êtes séduit par le truc. Et ça, je pense, ça fait partie du plaisir du lecteur, quoi. Et pour ça, il faut aller, en tout cas, il faut ouvrir des livres qu'on ne connaît pas. Mmh. Et c'est un bon endroit que d'aller dans une librairie pour ça.
Écoutons de la musique, non ?
Non, on n'a plus le temps. Il reste 10 minutes. La programmation de ce week-end est absolument, à la fin, là, est absolument géniale. Donc, je vais m'en occuper rapidement. Et puis, Francis se commentera rapidement aussi. On commence samedi 21 mai à 14h, la belle salle du fond, là où des belles expos, où se déroulent toutes les rencontres une fois par semaine. Donc, j'invite les auditeurs qui consultent le blog de Spectaculaire. Il y aura l'adresse. Vous pourrez cliquer sur le Bal des Ardents et ensuite, vous pourrez cliquer sur toutes les programmations de ce week-end. Vous aurez tous les détails de tout. Du gratin, on peut le dire, hein, du gratin peut-être hors norme, atypique qui vient, mais c'est du gratin quand même.
J'ai quand même mis de l'acide jazz là, une seconde d'acide jazz.
En fond pour dynamiser en fond, vraiment léger. Hein. Ouais. Donc samedi 21 mai à 14h, tenez-vous bien, dans la belle salle du fin, on a carrément le directeur depuis 98 des éditions La Fabrique. Je pense que beaucoup d'auditeurs de Radio Canu. Éric Hazan.
Éric Hazan.
Connaissent La Fabrique, oui, qui a publié donc, Le Comité Invisible, Ticone, qui a publié que des Jacques Rancière, Walter Benjamin et autres. Donc c'est une édition de référence. Et il y aura son directeur actuel qui viendra parler de son dernier livre, La Dynamique de la Révolte, sur des insurrections passées et d'autres à venir. Donc ça commence assez fort le samedi à 14h. Parallèlement, donc ce sont des rencontres parallèles, ça commence même à 10h du matin dans cette même salle où il y aura William Blanc, édition plus confidentielle, édition Libertalia, qui lui viendra parler, c'est encore un écrivain politique, c'est un médiéviste, qui publie un livre autour de Charles Martel, et bien sûr son exploitation, je pense, politique, un doctorant de l'EHESS, co-auteur des Historiens de Garde, etc. Charles Martel et la bataille de Poitiers, de l'histoire au mythe identitaire, le roi Arthur, un mythe contemporain, etc. Donc il met en lumière une sorte de concordance des temps, comment Charles Martel se retrouve à d'autres époques et relu par toutes les époques historiques des Lumières à la 5e République. Voilà. Donc ça commence le matin, c'est la coloration politique de la librairie qui a toujours existé d'ailleurs, c'est là qu'on trouve beaucoup d'écrits politiques. Si vous les cherchez, cher Canusard ou auditeur de Radio Canu, il faut aller là-bas. Il n'y a pas que la griffe, il y a aussi le Bal des Ardents pour chercher des livres. Donc le samedi à 10h ça commence, ensuite on a... C'est un programme très très complet et très très varié. On a donc Éric Hazan. Après, à 16h, ça continue ensuite avec les éditions Cornelius. Et là, on est tripoté d'auteurs de BD, les magnifiques éditions Cornelius qui sont aussi riches, aussi belles plastiquement et exigeantes en termes plastiques que littéraires, que scénaristiques, etc. Avec une tripotée de 5 auteurs, tous aussi bons les uns que les autres, qui viennent présenter leurs nouveaux ouvrages. Donc Ludovic Deberm, Fanny Michaelis, Anouk Ricard. Donc je donne les titres quand même, Un père vertueux, Le lait noir, Fait divers, Simon Roussin, Barthélémy, donc ça c'est les éditions Cornelius. Le soir, samedi 20h, il y aura peut-être encore des événements parallèles, mais nous aurons samedi 21 mai à 20h, Claude-Louis Combet. Là on revient plutôt à la littérature qui présente Des égarés, portraits de femmes mystiques du XVIIe siècle français. Encore une thématique un peu sulfureuse, le mysticisme.
C'est aussi un écrivain.
Ouais, féminin. Et oui, il a écrit d'autres livres. Donc voilà, parce qu'il y a un rayon un peu sulfureux aussi au Bal des Ardents, qui vient peut-être de la Musardine, qui est resté en tout cas. On y trouve des choses intéressantes. Nulle part ailleurs à Lyon d'ailleurs. Donc voilà, hein, Les égarés sur le mysticisme féminin au XVIIe siècle, qui est paru. Et bon, il a publié plein de choses. Il y aura Jérôme Mignon aussi, l'auteur d'un roman.
Son éditeur.
L'édition Jérôme Mignon. Voilà, paru La fosse aux ours, un autre. Mm-hmm. Un autre éditeur intéressant. Donc Claude-Louis Combet, voilà. On aura aussi... donc on passe à dimanche peut-être.
Oui, juste, voilà. Tu as oublié juste Frédéric Pajac.
Ah oui, bah oui, les cahiers dessinés. Bon, Buchet-Chastel, voilà. Les meilleurs cahiers de dessin qu'on ait fait. Pajac, voilà.
Et en même temps, Isa, je crois, en terrasse au soleil. Est-ce que tu peux nous indiquer également ce qui aura lieu à cette fête du Bal des Ardents?
Alors samedi à 14h, il y aura le collectif Mauvais Soin.
Voilà, qui est donc une revue de bande dessinée qui s'appelle Laurent 666, ouais, et qui a eu le prix Angoulême cette année.
Ce qui est c'est pas rien, oui. Et puis ensuite,
dimanche, la BD alternative, c'est ça?
Dimanche à 14h.
Au fanzine.
magazine Georges. Georges plus Jérémy Fischer.
C'est un opéra, non, Jérémy Fischer,
c'est son nom.
Oui, c'est, ouais. Non, là, c'est un type qui fait des papiers collés.
Ah oui, magnifique.
Autant aux enfants qu'aux adultes.
Il vient de Strasbourg.
On adore son travail. Et donc, par contre, le magazine Georges s'adresse principalement aux enfants.
Mais je crois bien que Jérémy Fischer...
Allez voir la présentation vidéo sur Vimeo du magazine Georges, qui est très 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 bien. Je l'ai regardé hier soir en préparant l'émission.
Il y a des illustrateurs qui sont excellents.
Voilà. Mais ça commence dès 11h le dimanche 22 mai. Alors le bal, c'est le samedi soir, j'imagine.
Le bal, c'est le samedi soir.
Avec un accordéoniste.
Avec deux maintenant, d'ailleurs. Il y a une américaine qui vient avec lui, apparemment.
À partir de quelle heure, le bal?
Je pense... On va voir, on va peut-être lancer tout doucement, comme ça, pour l'apéro. Mais en gros, ça va être 19-20h.
Bon, il faut amener à boire peut-être et à manger, peut-être.
Il y aura des choses sur place.
C'est la librairie qui... Ouais. Attention aux pique-assiettes. Ils seront interdits et très vite repérés. Ça recommence le dimanche 22 mai à 11h dans la belle salle du fond avec la revue 6 mois, Photoclub.
La revue photo, parce que c'est quoi? C'est tiré de 21, enfin tiré.
Oui, tout à fait.
C'est,
oui,
c'est une équipe, c'est ça?
Oui, avec dans la même.
Jacques-Henri Lartigue, Razia sur le Jade,
c'est
des
Exupéry,
derniers
je crois,
sujets.
J'ai en tête Patrick Exupéry, non? Il me semble.
Ah, c'est possible. Là, c'est. Alors, j'ai mangé
ça. Davantage, c'est 21, ça, il me semble.
Donc là, il y a en fait un film qui présente le boulot de photojournalisme, en même temps les enjeux et comment ils s'en sortent. Et ça va être commenté par une photojournaliste.
Et alors, cette revue, le format est toujours couverture sur format italien. Et puis, c'est sans pub. Hein. Je crois que c'est leur,
tout à fait,
leur grand...
Des rares avec la revue qui est le Canard Enchaîné.
Et le 1.
Qui ne fait pas de pub. Ah, ouais.
Gérald, tu l'as, le 1 d'aujourd'hui, consacré à... Êtes-vous Uber ou Blablacar? C'est la question qui est posée sur cette une. Ça peut être intéressant également.
Toujours
choix
des choix cornéliens. Toujours.
Et puis, Gérald, tu termines, ouais,
Dimanche 22 mai à 14h, toujours dans la belle salle du fond, puis devant la librairie au soleil, hein, parce que bien sûr, il y aura du soleil. Alors là, une graphiste primée aussi, qui a l'air très 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 intéressante, qui s'appelle Oriane Lassus, on va dire Lassus. Mm-hmm. C'est pas Lassus, l'écrivain, l'auteur de musique.
Qui fait donc partie du collectif Arbitraire, qui est un éditeur lyonnais qu'on suit depuis le début et qui commence maintenant à avoir un beau catalogue.
Avec une
éditeur
démonstration.
Dessiné, ouais.
Deux sérigraphies en direct, je crois.
Et avec la fabrication d'une sérigraphie dédiée au bal des Ardents.
À 15h.
En direct, tout à fait.
Voilà. Et deux rendez-vous pour terminer, c'est ça, Gérald? 16h et 18h pour achever.
Donc dimanche 22 à 16h, il y aura Jean-Paul Demure. Alors là, on tombe dans le Rivage Noir, édition Rivage Noir Polar.
Tout à fait. Donc c'est un auteur qui a eu d'ailleurs les deux plus grands prix du Polar en France, mais qui n'est jamais venu au Quai du Polar. Et j'en parlais à François Guérif, c'était l'occasion, et donc voilà, il sera là.
Bon, donc c'est une lacune qui est complétée.
Oh, c'était les hasards du calendrier.
Et enfin, 18h pour terminer, dimanche
22 mai. Thomas Bouchet, on revient à la dimension un peu politique engagée de la librairie qui existe. Hein, Abat les chefs, écrit libertaire d'un inconnu peut-être.
Jacques,
Abat les chefs, voilà, 1847-1863, donc présenté par Thomas Bouchet.
Ouais.
Qui sera là, enseignant-chercheur en histoire à l'Université de Bourgogne. Des thématiques très intéressantes, l'histoire des socialismes dits utopiques, l'histoire de la conflictualité politique et sociale.
Qu'est-ce que tu lis, toi, Gérald? Parce que moi, j'ai un petit flyer.
Moi, je lis en détail, mais moi, je me renseigne, monsieur.
C'est ce qu'il y a sur le site, en fait.
Ah, il faut se rendre sur le site, parce que je m'apprêtais à indiquer les renseignements.
C'est ce qu'on mettra, d'ailleurs, sur le blog. Comme
allez,
ça, les gens sauront vraiment qui vont les voir en priorité.
Il y a un numéro de téléphone également qui est aussi donné, le 04 72 98 83 36. 04 72 98 83 36. Je vois aussi l'adresse, Gérald. Tu as indiqué que c'était la rue Neuve. As-tu bien dit que c'était au 17?
Non, mais ça c'est.
Eh bien voilà, maintenant c'est fait. Donc nous avons bien
donc Thomas Boucher est l'auteur des fruits défendus, socialisme et sensualité du 19e siècle à nos jours.
Ah, il y a des titres absolument.
C'est très Nom d'oiseau, ouais. L'insulte beaucoup, ouais. En politique de la restauration à nos jours. Stop 2010. Il rend hommage ici à Joseph Déjacques dans Abat les chefs, écrit libertaire. Voilà, la fabrique.
Mais je crois qu'on a été très complet, hein, me semble-t-il, sur cette...
Donc il y en a pour tous les goûts, les enfants, venez avec vos enfants.
Est-ce une première édition?
Tout à fait, oui.
Oui,
c'est la première.
Édition 2, 3, 4, 5,
je ne sais pas, on va déjà faire celle-là.
C'était plutôt ma question, est-ce le début d'une série? Voilà, c'était pas tant, est-ce que c'est la...
On n'a rien anticipé, comme on l'a toujours fait d'ailleurs au Bal des Ardents, on va faire celle-là, et puis on fera le... comment on dit?
J'imagine que ce sera au gré un peu du succès qu'il y aura dans cette...
Oui, voilà. C'est beaucoup de boulot en amont, mais cela dit, voilà, j'ai déjà comme plein de retours très très sympathiques et auxquels je ne m'attendais pas. Donc, pourquoi pas en tout cas.
Bon, bien, si on a tout dit, on peut peut-être...
On a presque tout dit, quand même, Pajac, on n'a pas assez incité sur Pajac. Pajac, c'est un mec génial, il publie des dessins de ciné, de Topor, c'est les Cahiers Buchet-Chastel, c'est quand même le must du dessin. Il a un texte sur les dessins que j'aimerais... C'est possible de le lire ? On a deux minutes et après on parle de Didascalie, on coupe.
Pascal est déjà présent pour les blues des Caniches. Il commencera bien à l'heure aujourd'hui, à condition qu'on lâche l'antenne quand il le
faudra. Écoutez quand même ce qu'il dit sur le destin, le dessin, Frédéric Pajac, auteur, il est dessinateur, libraire, peintre, éditeur, écrivain. Le dessin n'a pas la place qu'il devrait avoir, il est le parent pauvre des beaux-arts. Le dessin, on l'appelle brouillon, croquis, esquisse ou gribouillis. N'étant pas grand-chose, le dessin s'est tourné du côté de la satire et de l'illustration, etc., etc. On n'aime pas la légèreté, pourtant, à l'instar du calligraphe qui perfectionne des années durant le même signe. Combien faut-il dessiner, redessiner un visage pour qu'il dise enfin de quoi il est fait, il faut voir et voir, c'est le contraire d'avoir vu, c'est un éternel recommencement le dessin. Je suis passé directement du début à la fin, ça faisait 10 lignes, mais c'est magnifique.
Et voilà, générique de fin d'émission, tout ça pour rappeler...
Didascalie, demain soir.
Oui, mais exactement, on s'accorde quelques instants pour rappeler qu'il y a quand même quelques annonces, c'est que ces jours-ci, Isa, tu évoquais tout à l'heure comment marche l'auditorium, l'opéra à côté marche avec un système de spectacles donnés sur 10-15 jours. Par exemple, actuellement, c'est Yolanta et Perséphone que je suis allé voir. Il y a d'ailleurs une critique, un compte-rendu sur le blog. C'est donné, ça a commencé la semaine dernière, le mercredi 11 mai, c'est donné jusqu'au jeudi 26, la semaine prochaine. C'est intéressant, moi je regrette un peu que la récitante du deuxième opéra de Perséphone soit sonorisée. Comment est-il possible que dans un opéra on mette, même si c'est extrêmement discret, un petit micro qui lui arrive dans qui arrive vers sa bouche et donc on entend des sons qui sortent des enceintes et c'est quand même dommage parce que les chœurs sont encore géniaux, Gérald. Je ne sais pas si tu iras voir l'opéra suivant, l'enlèvement au Sérail, qui arrive pas tout de suite. Ce sera du mardi 22 juin jusqu'au vendredi 15 juillet. Ça fait un paquet de dates. C'est un opéra de Mozart qui dure environ 2h45. Opéra chanté en allemand. Tu feras un compte rendu à ce moment-là. C'est mis en scène par Wajdi Mouad que nous avons invité à l'émission. Je ne sais pas s'il sera présent le mercredi 22. En revanche, je sais que le mercredi 8, a priori, c'est bien Stéphane Pacou pour les Beaux-Arts, l'exposition Autoportrait. Le mercredi 1er, ce sera normalement Stéphane Bernard pour le Père Ubu, qui est au TNP, qui sera au TNP. Il y a une sorte de relâche ces temps-ci. Et puis, si on prend encore à l'envers, le mercredi 25 mai, la semaine prochaine, ce sera...
Et bien, pour la troisième fois,
Benjamin Forel.
Benjamin Forel.
Dont le nom, le Troupe du Levant, ce n'est plus ça.
Est devenu Les Ineffables, Théâtre Ineffable.
Et là,
Ineffable
le spectacle Didascalie.
Alors voilà, alors Didascalie commence demain soir. Amateur de sensations fortes et de théâtre hors normes et underground, allez-y, ça va être à mon avis un grand moment.
À quel endroit ?
Si l'on en juge par la vidéo, qu'on mettra sur le site la vidéo d'ailleurs aussi.
Où est-ce que c'est ?
Je vais dire ça tout de suite.
D'accord.
Mais d'abord je résume.
Vite.
Ce que j'ai
senti.
On n'a pas deux secondes.
Non.
Didascalie.
Pascal me tape dessus.
Une pièce de l'Ineffable Théâtre qui sera donnée pendant, tenez-vous bien, 10 jours dans un hangar désindustrialisé. Vous savez que l'esprit de Benjamin Forel et de ce théâtre vivant et contemporain, c'est d'occuper des lieux atypiques, des friches, des trucs, de rentrer en contact avec le public dans un esprit totalement contemporain, avant-gardiste. Donc de 19 au 29 mai 2016, 115 avenue Lacassagne, Lyon 3e. Dans un hangar désindustrialisé. Alors, on donnera le site pour pouvoir acheter les places et réserver, etc. Donc, aujourd'hui, nous vous envoyons le lien d'une courte vidéo réalisée lors de nos premiers jours dans le hangar, parce qu'il y a tout un travail de préparation, évidemment. On la mettra en ligne. Nous espérons qu'elle vous donnera envie de nous rejoindre. Car n'oubliez pas, cher public, que vous êtes une part de la saveur du fruit. Parce que ce spectacle est un jeu où vous deviendrez tour à tour Wajdi Mouad, Joël Pomera, Yann Fabre, Valère Novarina, Pauline Salle, Fabrice Melchiot, Olivier Pi, Lars Noren. Donc, c'est un spectacle atypique, comme ils savent très bien les faire. C'est... On peut dire ces allumés de l'Ineffable Théâtre.
Rendez-vous mercredi 25 mai à 14h pour en savoir plus de la bouche de Benjamin Forel. Mais entre-temps,
une pièce de Benjamin Forel.
Entre-temps, il faut quand même y aller. Et puis sinon, pour cette émission, nous recevons en début, en première partie, Sophie Mischka pour la conférence demain donnée à l'occasion du programme Malheur de l'Auditorium. Jeudi 19 et samedi 21 mai, jeudi 20h, samedi 18h, Kinder Totenlieder et la Erste Symphonie. Et puis nous recevons à l'instant Francis. Un mot de la fin, Francis. Non, Gérald, un mot de la fin, c'est pas vrai.
Je voulais dire que pour Didascalie demain soir, il y a un tarif super réduit. 1 euro
bon.
Pour les bénéficiaires minima sociaux RSA, socle, ASS, AAH, minimum vieillesse et étudiants boursiers sur présentation d'un justificatif. Autrement, c'est plein tarif 20 euros et 10 euros au choix, sans justificatif à présenter.
Francis,
moi, je précise qu'il y a toujours de la musique au Bal des Ardents aussi.
Bon,
c'est bonne en plus.
Rendez-vous au Bal des Ardents, auditeurs. Moi, j'y vais tout
la
de suite.
Bonne musique.
Vous y allez quand vous souhaitez, notamment, allez-y samedi 21, dimanche 22 mai.
Merci à tous les trois.
La suite des émissions.
Merci d'être
venu. Il y a tout un tas d'émissions à venir, notamment le Blues des Canuts, là, tout de suite, dans quelques instants. Tout à l'heure, je crois, Son Bâtard à 16h, ou peut-être pas cette fois-ci, je ne sais plus, Pascal en reparlera. Et puis 18h, le Méga Combi, 19h, Canu Info. Et vendredi 13h, ne manquez pas le Théâtre de la Gamelle. Une grande émission, une magnifique émission, très intéressante et avec une équipe super sympa. Auditeurs, restez à l'écoute des programmes de Radio Canu. Et puis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde, bye.
Ciao.